toute l'info en trois lettres, RRB.
17h46 sur Radio Rythme Bleu, info week-end, Mickaël Genesky.
Première journée de la mission d'information du Forum des îles du Pacifique. En Calédonie, les représentants des gouvernements régionaux ont notamment pu découvrir de leurs propres yeux la dévastation de l'ancienne zone commerciale de Kenouin. La fin du salon Bat Expo et plus, une 33e édition qui se déroulait durant 3 jours et qui a dû s'adapter dans un contexte difficile à la Maison des Artisans. Bientôt la fin de la fête de la science 2024. Son vaisseau dédié s'est posé au centre Chibaou ce dimanche, à quelques pas du marché des femmes rurales. L'actualité nationale, Michel Barnier devra-t-il passer en force le budget 2025? Le gouvernement enchaîne les revers et le projet de loi de finances s'embourbe au Palais Bourbon. Le sport du football avec l'un des grands rendez-vous de la saison de Ligue 1, OM-PSG au menu demain matin. Et puis en Calédonie, nouvel événement majeur pour le padel, un tournoi à P500 au Mont Coffin avec un niveau de plus en plus relevé dans ce sport de raquette à la mode. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres, un accident mortel de la circulation est survenu cet après-midi vers 14h45 au Mont d'Or sur la route de la Corniche dans le secteur du Vallon d'Or. Un seul véhicule, un SUV, était impliqué avec une seule personne à bord, une conductrice qui n'a pas survécu à ses blessures. Des témoins l'auraient vu faire plusieurs zigzags à une vitesse excessive. Elle aurait perdu le contrôle de son véhicule avant d'heurter un arbre puis un second arbre. Le corps a été évacué vers le Médipôle de Cuccio pour des analyses toxicologiques. L'enquête est en cours. Il s'agit de la 20e personne à perdre la vie sur nos routes depuis le début de l'année. Au chapitre des interventions des forces de l'ordre, la route de Saint-Louis a dû être temporairement fermée hier soir, le temps d'une intervention des gendarmes Léo Fichot.
Et durant le passage des convois qui permettent d'emprunter la RP1, l'un des véhicules de gendarmes escortant les voitures a été la cible d'un jet de bouteille en verre qui a cassé la vitre du véhicule des forces de l'ordre. Une autre voiture de la gendarmerie présente dans le convoi a pu rapidement identifier et interpeller l'individu responsable de ce jet de bouteille. Quelques échanges de paroles ont été nécessaires entre les forces de l'ordre et un regroupement de personnes qui s'est très vite formé aux abords de la tribu de Saint-Louis avant que l'individu ne soit conduit dans de bonnes conditions à la brigade de gendarmerie de Saint-Michel pour y être placé en garde à vue. Durant ce temps, la circulation a été fermée aux environs de 17h avant d'être réouverte par les gendarmes jusqu'au créneau de fermeture, toujours fixé à 18h.
Le premier temps fort de la mission d'information du Forum des îles du Pacifique. Ce dimanche, les représentants des gouvernements régionaux se sont rendus dans les décombres de la zone commerciale de Kenouin. Un spectacle de désolation face à des structures calcinées, un secteur dévasté au mois de mai dernier. On rappelle que la délégation du Forum des îles du Pacifique effectue ce déplacement dans le contexte de la recherche de solutions après la crise insurrectionnelle du 13 mai. Une mission composée du Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, du Premier ministre des Tonga, c'est aussi Siso Kalini, du Premier ministre fidjien Sitiveni Rambuka, du ministre des Affaires étrangères des îles Salomon, Peter Chanel Agovaka, et du secrétaire général du Forum, Baron Waka. Ils étaient donc aux côtés des acteurs économiques calédoniens de NCECO à la mi-journée. David Guyenne, le président de la CCI, est membre de NCECO.
C'était très émouvant et le monde économique tenait absolument à ce que les représentants du Forum des îles du Pacifique voient de leurs propres yeux ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est d'un niveau de dévastation et au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc il fallait qu'ils le voient vraiment de leurs yeux. On voulait faire passer le message qu'il y a eu un moment de sidération d'une échelle cataclysmique. De nombreuses familles, des entrepreneurs, des commerçants, des salariés ont souffert de cette dévastation. Et on voulait aussi faire comprendre qu'il y a ce qui s'est passé le 13 mai et il y a aussi la suite. Et que les conséquences sont très douloureuses, elles ne sont pas évidemment terminées. Le Forum des îles du Pacifique, ce qu'il peut apporter, d'abord, c'est ne pas avoir une vision idéologique de ce qui s'est passé de la Nouvelle-Calédonie, de bien comprendre que ce qui s'est passé est un problème économique, un problème social, et qu'on le reconstruira avec du temps, avec beaucoup de pragmatisme, et surtout ne pas mélanger politique, idéologie et évidemment le drame qui s'est passé.
Les membres de NCECO espèrent que cette visite sur le terrain des membres et des chefs de gouvernement régionaux leur permettra de prendre conscience de la complexité de la situation que connaît la Calédonie. On retrouve David Guyenne.
On parle de premiers ministres, Tonga, Ilkouk, Fidji, d'îles qui sont beaucoup moins riches, prospères que la Nouvelle-Calédonie, de comprendre à quel point la dévastation, 20% du PIB de la Nouvelle-Calédonie, c'est quasiment toute la richesse des îles Cook ou une grande partie de la richesse de Fidji. Et de comprendre que ça s'est passé en si peu de temps et que la Nouvelle-Calédonie vient de faire un bond en arrière de 20 ans, je pense que ça les a touchés. Il faut vraiment bien qu'ils comprennent qu'il y a des discours politiques, mais d'abord il y a la réalité des gens et il y a la réalité des entreprises.
David Guyenne, le président de la CCI et membre de NCECO, notez qu'avant ce déplacement à Kenouin, la mission s'était rendue au Medipol. Cet après-midi, la délégation du Forum des îles du Pacifique a eu un entretien au Haut-Commissariat avec le Haut-Commissaire Louis Lefranc et l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. Les membres de la mission étaient ensuite au Sénat coutumier. Ils ont pris du retard sur leur programme. Ils doivent encore se rendre ce soir au Congrès, tandis que la séquence à la Communauté du Pacifique Sud a été annulée. La mission d'information du Forum des îles du Pacifique qui sera donc sur le territoire jusqu'à mardi avec encore de nombreuses séquences à leur programme, Léo Fichou.
Demain d'abord, les membres de la mission s'entretiendront tour à tour avec le président du gouvernement, puis avec le gouvernement collégial. Ils rencontreront ensuite la présidente de la province sud, Sonia Baquès, puis le président de la province des îles, Jacques Lallier, avant de déjeuner avec la jeunesse de Nouvelle-Calédonie. Mardi, ils rencontreront notamment les autorités religieuses, le monde de l'enseignement, le comité Parole, Mémoire, Vérité, Réconciliation ou encore les représentants des femmes et termineront leur mission par une visite d'observation des dommages causés lors de la crise.
Au chapitre politique, le Palika réunissait hier une assemblée générale pour préparer le congrès du Palika prévu du 8 au 10 novembre. À La Gomène. Parmi les sujets évoqués lors de cette Assemblée Générale, la stratégie de sortie de crise et l'avenir institutionnel. Le Palika qui souhaite expliquer la solution négociée qu'il souhaite obtenir dans les discussions en cours.
RRB 17h53.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite. Elle se conclura, Léo Fichou, par un long week-end.
Vendredi prochain, le 1er novembre, sera la fête de la Toussaint. L'Église catholique célèbre à cette occasion tous les saints et c'est le lendemain, le 2 novembre, le jour des morts. Traditionnellement, les Calédoniens se rendent au cimetière le jour de la Toussaint pour honorer les morts de leur famille. Notez que la fête de la génisse de Koumak, qui était prévue au mois de mai, sera organisée samedi prochain. Avant cela, la semaine sera marquée par la suite de la mission du Forum des îles du Pacifique. Les 5 membres de la mission quitteront le territoire, on l'a déjà dit et on le répète, mardi. Mardi soir également, Dumbéa réunit son conseil municipal à 17h pour étudier notamment la délibération modificative numéro 2 de son budget. Mercredi, c'est la commission plénière du Congrès qui se réunit pour dresser un point de situation du monde associatif. Et enfin jeudi, la Chambre territoriale des comptes tiendra une audience solennelle pour l'installation de Thomas Govedarica, procureur financier près de la CTC.
Vos rendez-vous sur l'antenne d'RRB. Demain matin, notre invité sera Philippe Blaise, le premier vice-président de la province sud. Rendez-vous donc sur l'antenne d'RRB demain matin à 7h30. Et puis, à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Sonia Baquès, la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Émission également disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, le 33e salon Bat Expo et Plus s'est achevé aujourd'hui. Plus de 140 stands étaient présents durant 3 jours concernant tous les domaines de la maison, intérieure comme extérieure. Écoutez ces quelques témoignages.
Vincent Vacariza, gérant de la société Couture Design, spécialiste d'aménagement extérieur.
Le bilan pour vous de ces 3 jours?
Maigre comparé à un salon avant émeute, mais on s'adapte. On est sur quand même quasiment 3 fois moins de demande de devis, on va dire, ou de rendez-vous, de prise de rendez-vous en tout cas.
Nicolas en couleur NC, je mets de la couleur dans la vie des gens. Je peins à la main sur textile et je propose des gants, des maniques, des tabliers, des coussins, tout ce qui est textile. C'est assez calme. On aurait aimé un peu mieux, mais voilà.
Christine NC, créatrice d'albums et de carteries entièrement fait à la main, du début jusqu'à la fin. J'utilise beaucoup comme matière première du papier de qualité. C'est assez mitigé et très timide pour ces 3 jours. Voilà, mais je pense que les gens ont un petit peu de mal encore à être sollicités, on va dire, pour revenir sur des manifestations comme ça.
Le salon Bat Expo et Plus qui avait dû s'adapter cette année. L'événement se déroulait depuis vendredi à la Maison des Artisans. La fête de la science prenait ses quartiers au centre Tibau ce dimanche. Les visiteurs pouvaient découvrir le fameux vaisseau des sciences, assister à des projections de films, retrouver la bibliothèque humaine avec des artistes et des personnalités présentes pour échanger librement avec le grand public. Les plus jeunes ont apprécié l'ambiance.
On a découvert plusieurs espèces et on a vu quelles espèces étaient en Nouvelle-Calédonie il y a plus de 2000 ans.
C'est quoi qui t'a le plus plu ?
C'était les décorations.
Je suis Florian Barthes, salarié à l'association Symbiose. On organise des visites tous les 30 minutes avec les gens qui viennent pour le marché rural, voilà, au centre de Tibau. Et on leur fait visiter notre vaisseau des sciences sur la biodiversité de Nouvelle-Calédonie. Alors dedans, on parle de la diversité de Nouvelle-Calédonie en général, qu'elle soit marine ou bien terrestre, avec les différents écosystèmes qui peuplent la Calédonie et les différentes espèces du coup qu'on peut y rencontrer, des espèces endémiques, des espèces aussi qui ont été introduites et des problématiques qui sont associées à tout ça. On a de très bons retours, hein, des personnes qui passent un bon moment. Alors là, ce type de visite, on les fait avant tout pour qu'elle soit ludique, pour que ce soit divertissant. Et par la même occasion, ils en ressortent avec quelques connaissances supplémentaires sur la biodiversité, son importance, sa fragilité et les moyens qu'on peut mettre en place pour la préserver.
J'adore les effets spéciaux et les boutons. Bah, quand on appuie sur un bouton, par exemple, ça dit quelque chose ou ça explique quelque chose. Et c'est pareil quand on tourne une mimolette.
Moi, c'est Simon. Je suis artiste culture urbaine et slammer. Alors, on est là avec la structure Turtle. Et un petit bonus de la semaine de la science à Tibau, c'est la bibliothèque humaine. Ça met en avant les sciences sociales du relationnel. Et on est plusieurs livres, on est 8, différents parcours, différents points de vue de la vie et on échange avec les gens qui veulent bien.
À noter que la fête de la science s'achèvera demain en Calédonie après avoir sillonné le territoire avec des rendez-vous organisés notamment pour les collégiens et les lycéens sur le thème « Océan de savoir ». Une nouvelle action solidaire organisée par la Banque Alimentaire ce dimanche en partenariat avec l'Amicale vietnamienne. Les bénévoles ont distribué des repas au foyer de l'Amicale pour un grand repas partagé. Betty Levanquet est la présidente de la Banque Alimentaire.
On a servi donc au foyer de l'Amicale vietnamienne 3 plats que l'on a servi au choix. Donc on avait du poulet au soyo, du poulet aux champignons parfumés et des œufs brouillés aux champignons parfumés et au persil chinois. On a fait 1450 repas. En fait, le repas partagé, c'est un concept que j'ai voulu mettre en place avant les émeutes au café Tangata. On essaye de réunir tout le monde. Tout le monde vient manger. Nous, Banque Alimentaire, on donne les repas. Et ceux qui ont les moyens viennent manger avec nous et nous font un don qui permet de financer nos opérations en faveur des plus démunis. Je trouve que ça aide à resserrer le lien social entre les gens. Et puis surtout, c'est la plus belle des expressions du vivre ensemble. Aujourd'hui, c'était magnifique de réunir tout le monde. On a chanté, dansé. Esther Ouamedio est venue chanter pour nous et on a dansé tous ensemble. C'était merveilleux.
Betty Levanquet, la présidente de la Banque Alimentaire, qui répondait à Kélinda Boicourt. Une information pratique, je vous rappelle que c'est aujourd'hui que la métropole est passée à l'heure d'hiver. À midi en Calédonie, les horloges de la métropole ont reculé d'une heure. Conséquence, le décalage horaire entre la métropole et la Calédonie est désormais de plus 10 heures. Cela a peu de répercussions pour nous, mais pensez-y lors de vos contacts téléphoniques avec la métropole. Les horaires des vols internationaux connaissent également quelques adaptations. Ce décalage horaire provoque enfin de légères modifications sur notre antenne avec un petit décalage dans la diffusion de certains rendez-vous d'information d'Europe 1. À 17h passé de 59 minutes après la pub, on passe en revue l'actualité nationale et dans le monde. À tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Mickaël Genesky.
À l'actualité nationale, le gouvernement enchaîne les revers à propos du budget 2025. L'examen de la partie recette n'est pas arrivé à son terme à l'Assemblée nationale. Reste maintenant à savoir quelles options va privilégier Michel Barnier alors que le texte a été grandement modifié. Le recours à l'article 49.3 paraît inévitable. Décryptage d'Alexis Delafontaine pour Europe 1.
Entre le rétablissement de la CVAE, la pérennisation de la contribution sur le fret maritime, le rejet du malus automobile ou encore la suppression de la hausse du prix de l'électricité, eh bien le gouvernement perd quasiment l'ensemble de ses combats à l'Assemblée nationale. Les alliances de circonstances entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national, cumulé à l'absence des députés du socle commun, garantissent une majorité à l'opposition. Alors, Michel Barnier cherche dorénavant une porte de sortie. Il faut déclencher le 49-3 le plus vite possible, alerte un député macroniste qui veut à tout prix stopper l'hémorragie. Mais cette solution ne fait pas l'unanimité dans le camp présidentiel. Certains stratèges ne veulent pas répéter les erreurs faites par Elisabeth Borne. Une autre hypothèse est donc largement plébiscitée, l'utilisation de l'article 47 qui impose aux députés de finir l'examen du budget avant le 21 novembre. Un délai totalement intenable, et s'ils échouent, le projet de loi ira directement au Sénat sans passer par le vote et dans sa version initiale. Un scénario idéal pour Michel Barnier.
Alexis de la Fontaine pour Europe 1. Michel Barnier qui annonce dans les colonnes du journal Le Parisien qu'il présentera dans quelques semaines un plan de réforme à 5 ans. L'objectif du Premier ministre, changer le pays en menant des projets concrets, notamment le travail sur la fin de vie, la maîtrise de l'immigration ou encore la reprise de la loi d'orientation agricole. En Guadeloupe, après une coupure de courant généralisée, la situation se rétablit progressivement. Il n'y a plus qu'un quart des foyers qui restent sans électricité dans l'archipel après l'arrêt de la principale centrale thermique provoquée par des grévistes. Le couvre-feu mis en place par le préfet de la Guadeloupe reste en vigueur dans certaines zones afin d'éviter les troubles à l'ordre public. Des pillards ont profité de la première nuit de blackout pour vandaliser plusieurs enseignes. Une bijouterie a été attaquée au tractopelle. Le distributeur d'électricité EDF a déjà annoncé porter plainte contre X à la suite de cette coupure de courant général. À l'international, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu 51 drones ukrainiens au-dessus de son territoire. L'un d'entre eux a été intercepté dans la région de Koursk, où les troupes ukrainiennes mènent une offensive terrestre depuis le mois d'août. Elles y contrôlent quelques centaines de kilomètres carrés de territoire russe. Au Moyen-Orient, l'Iran a affirmé son droit à se défendre après des frappes contre ses sites militaires menées par Israël. Un dernier épisode en date des hostilités entre les deux pays ennemis qui a suscité des appels à la retenue de la communauté internationale face au risque d'une escalade militaire au Moyen-Orient. Pour la première fois, Israël a annoncé publiquement avoir attaqué l'Iran en lançant ses frappes aériennes contre des installations de fabrication de missiles. En bref, toujours, le gouvernement indien a averti les plateformes des réseaux sociaux qu'elles s'exposaient à des mesures conséquentes prévues par la loi après la pagaille provoquée ces dernières semaines par des centaines de fausses alertes à la bombe en ligne visant des compagnies aériennes. Le gouvernement indien a sommé les plateformes de procéder à la suppression rapide des fausses informations. Fin de citation. Cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Pierre Lellouche, ancien ministre et spécialiste des questions internationales. Une émission que vous pourrez retrouver sur l'antenne d'RRB demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité dans la région Pacifique, à présent à Papeete, le vieux lion Gaston Flosse vient, à l'âge de 93 ans, de fonder un nouveau parti politique, le Tawé Tatou, Rassemblons-nous en tahitien, parti dont il a confié la présidence à son épouse. Pascal Haïti-Flos, c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Sa couleur est le rose fuchsia, son symbole une tortue. Sa devise, quant à elle, est amour, solidarité, souveraineté. Sa présidente en sera Pascal Haïti, épouse de Gaston Flos, lequel a ainsi voulu se démarquer complètement du Amouiri Taïra, son ancien parti dont Bruno Sandras a aujourd'hui pris les rênes. « Je veux partir serein et en paix », a déclaré le vétéran de la politique tahitienne, lequel a précisé que son nouveau parti sera progressiste et qu'il fera de l'économie son cheval de bataille. Il a ajouté que l'autonomie de la Polynésie est, je cite, « arrivée en bout de route » et qu'il est donc devenu nécessaire de la remplacer par un système de souveraineté progressiste. Je suis prête, c'est pour sa part contenté d'indiquer, Pascal Haïti. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h passées de 5 minutes, une dernière pause publicitaire avant d'évoquer un choc. Marseille-PSG, c'est du football dans un instant.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport. Michael Genesky.
À la une du sport, suite et fin de la 9e journée de Ligue 1, le championnat de France de football, Léo Fichaud.
Et oui, à 1h, l'Olympique Lyonnais reçoit Auxerre, puis à 3h, 3 rencontres sont au programme cette nuit. Montpellier-Toulouse, le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco, et enfin Strasbourg-Nantes, les joueurs donc d'Antoine Comboiré qui seront sur la pelouse de Strasbourg. Enfin, à 6h45, le match tant attendu de cette 9e journée. Pour terminer, le Classico, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. On rappelle les résultats en ouverture. Hier matin, Rennes a battu Le Havre 1-0. Angers s'est imposé 4-2 sur Saint-Etienne. Brest est allé battre Reims 2-1. Et enfin, Lille a remporté le derby du Nord sur la pelouse de Lens 2-0.
Allez, du football toujours. Et puis on reparle de cette claque infligée en Espagne par le FC Barcelone au Real Madrid.
Une véritable démonstration de football ce matin sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Les Catalans se sont imposés 4-0 sur le Real Madrid. Tout s'est joué en seconde période avec un doublé coup sur coup de Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. En fin de match, ont scellé le score. Et grâce à cette victoire, les Barcelonais, en tête de la Liga, possèdent désormais 6 points d'avance sur les Madrilènes.
Allez, l'actualité du rugby à présent est la 8e journée du top 14. Demain, le Stade Toulousain, qui n'est provisoirement plus leader, recevra le RCT.
Les stadistes sont 2e à 4 points de l'Union Bordeaux-Bègle. L'UBB qui s'est imposé, on le rappelle, 19-6 sur la section paloise hier soir. Les Toulousains auront donc à cœur de reprendre leur première place demain matin à domicile face à Toulon. Coup d'envoi de la rencontre, ce sera à 7h05. Les autres résultats de cette 8e journée, victoire 36-6 du Stade français sur Clermont, victoire de l'Aviron bayonnais 49-38 sur Lyon, Montpellier s'est imposé 16-0 sur La Rochelle, victoire du Racing 92-30-23 sur l'USA Perpignan et le promu Vanté qui s'est imposé 34-28 face au Castres Olympique.
En tennis, Giovanni Mbeccher-Péricard est en finale de l'ATP 500 de Bâle en Suisse.
Oui, le Français affrontera la nuit prochaine l'Américain Ben Shelton en finale. Ben Shelton qui est venu à bout de notre Français Arthur Fils en demi-finale. Ce sera seulement la deuxième confrontation entre les deux hommes. La première fois, c'était au tournoi du Queens il y a quelques mois seulement. Giovanni Mbeccher-Péricard s'était imposé en 2-7. A noter que dès demain, victoire comme défaite, le Français sera engagé au Masters 1000 de Paris-Bercy. Il aura quand même quelques jours de repos. Il commencera sans doute que mardi, mais le tournoi débute demain avec de nombreux tricolores. Arthur Fils, Richard Gasquet, Hugo Humbert ou encore Adrien Manarino qui a remporté, on le rappelle, à 3 reprises les internationaux de Nouméa.
On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
À la F1 avec Carlos Sainz qui a signé la pole position en vue du Grand Prix du Mexique.
Et le pilote Ferrari qui a signé le meilleur temps exactement à Mexico devant la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren de Lando Norris. Une semaine après le doublé de la Scuderia au Texas, les monoplaces de l'équipe Ferrari pourraient encore frapper un grand coup puisque Charles Leclerc est en embuscade à la 4e place, tandis que les deux coéquipiers des leaders de McLaren et de Red Bull, Oscar Piastri et Sergio Perez, ont connu des désillusions en se classant seulement 17e et 18e. Côté français, Pierre Gasly a réussi à se positionner avec son Alpine en 8e position sur la grille de départ. On l'écoute.
Ça fait extrêmement du bien parce que c'est vrai que ça a été compliqué tout au long du week-end. Au moins, on est encore une fois dans la bagarre pour la 7e place et pour le top du midfield en calibre, donc c'est vraiment, vraiment bien.
Pardon. En revanche, Esteban Ocon, l'autre Français, s'élancera de la 19e place. Un Grand Prix du Mexique qui sera à suivre à partir de 7h ce lundi.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
On continue de parler sport mécanique avec cette fois le Grand Prix de MotoGP de Thaïlande.
Hier soir, c'est Enea Bastianini qui s'est imposé sur la course sprint. Il a devancé l'Espagnol Jorge Martin et un autre Italien, Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo a terminé 10e, Johan Zarco 12e. Le départ de la course reine sera donné dans un peu moins d'une heure à 19h. Fabio Quartararo partira de la 6e place, une très belle position sur la grille de départ. Johan Zarco sera lui 12e.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
En Calédonie, l'actualité des sports de raquettes, c'est la fête du padel ce week-end au Tennis Club du Mont-Coffin. Deux tournois étaient au programme, un P250 et un P500.
22 équipes sur le premier tournoi et 16 équipes sur le second, soit 76 joueurs qui ont défilé hier et aujourd'hui sur les 4 pistes du Mont-Coffin. L'organisation d'un P500 permet d'augmenter le niveau de jeu. Les explications de Lionel Trille, professeur de padel au TCMC.
Ben on l'a fait un peu exprès de hausser le niveau grâce au P500. Ça se fait pas à l'inscription par téléphone ou par mail le plus rapide, mais ça se fait au niveau des points. Donc on a voulu vraiment densifier et que ça soit le plus homogène possible le tournoi. Donc ce qui est bien au P500, c'est d'entrée de jeu, les premières parties, ben on est directement dans le dur. C'est vrai que ce qui manque en Nouvelle-Calédonie, c'est pas les joueurs, c'est les terrains. On espère que des clubs vont sortir de terre pour aussi élever le niveau, parce que plus les gens vont jouer, plus le niveau va augmenter. Et j'espère l'année prochaine que les stars espagnoles et françaises qui ont pu venir à la Patrimonium puissent revenir l'année prochaine.
Une organisation appréciée des spectateurs et des joueurs, un tournoi avec de plus en plus de niveaux, donc ça prouve que la discipline est bien ancrée sur le territoire. Et Nicolas Ngodrella, champion calédonien de padel.
Oui, elle a vraiment pris de l'importance ici. Ça joue partout, tout le temps, les terrains sont remplis et tout le monde a progressé. Même nous, on a vraiment progressé depuis les premiers échanges. Et voilà, le niveau monte et l'engouement augmente et c'est bien pour nous.
La finale du P500 est en train de se jouer. On vous donnera les résultats dans nos prochaines éditions. Prochain rendez-vous pour le padel sur le territoire, ce sera la semaine prochaine avec un P250 dames organisé au Receiving.
Les sports de raquettes, toujours avec du badminton, une compétition de reprise qui se déroulait ce samedi.
Les championnats de la province sud en simple se disputaient à la salle Omnisport d'Auteuil à Dumbéa. Plus de 90 participants étaient en lice. On signera les victoires dans leurs catégories respectives de Marc-Antoine de Semoz de l'AS Magenta chez les messieurs, de Joseph Guyen du club jeunesse indonésienne et de Johanna Kou de l'AS Magenta.
Allez, à Nouméa, toujours plusieurs compétitions hier et déjà du tennis de table.
Et oui, en tennis de table, la salle Noyant de Nouméa accueillait les championnats territoriaux Open. Ce matin, Jérôme Morisseau du club du Mont d'Or s'est imposé sur Jérémy Day de l'Olympique après un match très serré, une victoire 4-7 à 3. Chez les dames, Maëlys Giré, elle aussi de l'Olympique, a dominé Fabiana Faeo 4-7 à 0. On rappelle peut-être hier que chez les plus de 40 ans, Jérôme Morisseau s'est une nouvelle fois imposé, donc il a fait le doublé ce week-end. Chez les plus de 55 ans, victoire de Jorn Turkoff de la Foix. Et chez les plus de 65 ans, c'est Henri Wau de l'AS Magenta qui s'en sort vainqueur. Du côté des femmes, le titre revient à Fabienne Faeo du club de Kouma qui s'est incliné ce matin, la finale Open. Donc une victoire et une défaite en finale pour elle.
Merci beaucoup Léo Fichou. On siffle la fin du match, 18h13, c'est l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, 7 avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, les nuages de fin de journée s'étaleront davantage sur le long des côtes. Ils déposeront encore des averses sur la pointe nord, le nord-est et localement sur le nord-ouest. En fin de nuit, le ciel se dégradera et deviendra étoilé sur l'ouest et le sud de la Grande Terre. Le vent de secteur sud-est faiblira entre 15 et 20 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le sud en fin de nuit. Et les températures minimales ce soir seront souvent comprises entre 19 et 21 degrés, voire 23 degrés sur la pointe nord. Elles pourront quand même descendre autour des 16 degrés dans l'intérieur et sur l'ouest. Demain matin, de la pointe nord-est au Loyauté, le ciel sera souvent nuageux et quelques averses circuleront. Ailleurs, le soleil sera au rendez-vous. L'alizé de secteur sud-est faiblira entre 15 et 20 nœuds et localement 10 à 15 nœuds sur l'île des Pins et jusqu'à la pointe sud.